Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
On va dans les Alpes au-dessus de Grenoble. On va se confiner avec, pour que les enfants soient au vert et que leur mamie s'en occupe pendant que nous on travaille. On télétravaille, ouais, de là-bas.
Des gares bondées jusqu'à la dernière minute avant le terminus confinement. Les Français ont profité à fond de ce long week-end de Pâques, car à partir de demain, ce sera tous à la maison pour un mois. Tous vaccinés en revanche, ce n'est pas pour tout de suite. Près de 1200 doses d'AstraZeneca ont été boudées ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais. Une défiance qui met les médecins en colère. D'autant que la campagne s'accélère. Plusieurs vaccinodromes ouvriront leurs portes demain. Parmi eux, le Stade de France, où l'on vise 10 000 injections par semaine. Comment se faire vacciner alors qu'on n'est pas prioritaire? Et bien pour cela, il y a un site internet créé par des médecins pour ne rien perdre des fonds de flacon. Air France va bénéficier d'une nouvelle aide financière validée par la Commission européenne, mais en contrepartie, la compagnie va devoir abandonner de précieux créneaux horaires à l'aéroport d'Orly. Dans ce journal également, les nouvelles révélations de Monique Olivier dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-femme de Michel Fourniret reconnaît pour la première fois avoir joué un rôle dans la séquestration de la fillette dans les Ardennes. Une nouvelle accusation contre Pierre Ménès, lancée ce matin sur Europe 1 par Alice Belaïdi. L'actrice accuse le journaliste de propos racistes et sexistes. Et puis jackpot en perspective pour 18 sites historiques en péril. Ils ont été sélectionnés pour être restaurés grâce au loto du patrimoine. La météo, couvrez-vous, elle va redevenir hivernale demain avec des gelées matinales, des giboulées et des vents forts dans le sud, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, eh bien, elle n'était pas ouverte en ce jour férié. À l'inverse de Wall Street, que s'est-il passé aujourd'hui sur les marchés? Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Comment préparer ses vacances d'été avec le yo-yo des restrictions? Les réservations de dernière minute vont-elles devenir la norme? Pour en parler, Aurélien Fleureau reçoit ce soir Guillaume Rostand, le directeur marketing de Liligo. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le week-end de Pâques est donc en train de toucher à sa fin et avec lui, certaines de nos libertés. Le confinement national va débuter demain de manière effective. 4 semaines minimum pendant lesquelles tout ou presque se fera à la maison, école, travail et même les vacances de printemps. Fini la tolérance accordée ces derniers jours. À compter de demain, les déplacements entre régions ne seront plus autorisés que pour raisons impérieuses. Voilà pourquoi vous étiez nombreux aujourd'hui à avoir profité de ces dernières heures de liberté, comme l'a constaté à la gare de Lyon à Paris notre reporter Jean-Jacques Herry.
D'abord, il y a ceux qui fuient Paris, comme Barbara, ses deux enfants et sa grosse valise, qui traversent à toute vitesse les couloirs de la gare de Lyon.
On va dans les Alpes au-dessus de Grenoble. On va se confiner avec, pour que les enfants soient au vert et que leur mamie s'en occupe pendant que nous on travaille. On télétravaille, ouais, de là-bas.
Et ces départs de la capitale au dernier moment, au dernier soir du week-end de Pâques, surprennent ceux qui, dans l'autre sens, rentrent se confiner 4 semaines dans leurs 10 km parisiens. C'est le cas d'Alice et Paul qui ont pu profiter de ce week-end de tolérance dans les transports pour passer 3 jours à Toulon.
Il fallait rentrer et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui quittent Paris pour s'exiler.
On n'a pas été contrôlé une seule fois. Du coup, c'est vrai qu'il y avait un certain flou, c'était même assez nébuleux hein, concernant la tolérance.
Mais chez les voyageurs, on n'observe pas de spleen particulier. Il y a une sorte d'habitude qui s'est installée, comme une résilience lasse, notamment chez Hermine, qui a passé le week-end de Pâques chez ses parents avant de rentrer dans la cité phocéenne.
J'ai vu mes parents du coup à Paris ce week-end et là je rentre me confiner à Marseille. Enfin, à Marseille, ça va le confinement, donc moi ça change pas grand-chose.
On va rester dans les 10 km quoi.
Oui, voilà, c'est pas trop compliqué, ça va. Moi, ça me dérange pas du tout, donc ça va.
Et ça va d'autant plus que dans leur valise, beaucoup transportent un antidépresseur naturel qu'on peut facilement obtenir sans ordonnance. Des œufs de Pâques en chocolat.
Jean-Jacques Herry à la gare de Lyon, à Paris pour Europe 1. La défiance envers AstraZeneca freine l'avancée de la vaccination. Dans le Nord et le Pas-de-Calais ce week-end, un bon millier de doses n'a pas trouvé preneur. Des centaines de rendez-vous ont dû être annulés à Calais, Boulogne-sur-Mer et Gravelines où là ce sont 600 doses, c'est considérable, qui sont restées dans les frigos du centre. Son coordinateur, le docteur Thierry Mrabroïc, est ce soir consterné.
Je suis en colère parce qu'en fait, la communication est tellement faite dans un sens unique que voilà, les patients sont méfiants et on peut le comprendre. En colère puisqu'en fait, c'était un week-end où on pouvait encore faire de la primo-injection alors qu'à partir de la semaine prochaine, on va être dans les rappels. Donc colère parce qu'en fait, 600 doses vont repartir à la pharmacie. Alors, ils ne sont pas perdus, bien évidemment, mais ils vont être restitués à la pharmacie de l'hôpital et donc peut-être distribués dans la région et pas utilisés pour la population du littoral. Et déçu parce qu'en fait, la trentaine de personnes qui étaient sur le centre pour le faire tourner, médecins, infirmiers, secouristes, secrétaires, sont restés dans l'attente de rendez-vous qui ne sont pas arrivés. Ce que je veux rajouter, c'est que ça reste un vaccin tout à fait satisfaisant et qu'il faut absolument refaire adhérer la population à ce vaccin-là.
Le coordinateur du centre de vaccination de Gravelines au micro européen de Maximilien Carlier. Et pour que la population adhère à nouveau à l'AstraZeneca, Olivier Véran a répété aujourd'hui ce qu'il dit depuis plusieurs semaines maintenant. Ce vaccin reste sûr et efficace. Aucune raison d'être méfiant, selon le ministre de la Santé, qui a par ailleurs rappelé l'objectif du gouvernement. 15 millions de primo-injections d'ici la mi-avril. On en est ce soir à 9,3 millions. Et pour vacciner sans répit, matin, midi et soir, comme l'a demandé Emmanuel Macron, il faut des doses. Elles arrivent, promet l'exécutif. Mais il faut aussi de grandes structures pour accueillir le public, les fameux vaccinodromes. Plusieurs vont ouvrir leurs portes demain matin. Il y en aura 46 dans toute la France d'ici la fin du mois et certains sont des lieux bien connus du grand public, Nicolas Feldman.
Oui, après le stade Vélodrome à Marseille, où le Groupama Stadium près de Lyon place notamment dès demain au Stade de France. Pour être considéré comme un vaccinodrome, eh bien, il faut réaliser plus de 1000 injections par jour. À Saint-Denis, les autorités misent sur 10 000 doses hebdomadaires. La maman de Florence, 72 ans, recevra une après des semaines de recherche.
Je suis impatiente parce qu'enfin on y est arrivé. Enfin, on a les rendez-vous pour les deux injections. Néanmoins, ce fut long, ce fut laborieux. Nous sommes allés voir notre pharmacien qui n'avait pas de vaccin disponible. Notre médecin généraliste était assailli de demandes. Nous sommes également aller sur les plateformes officielles où effectivement il n'y avait jamais de rendez-vous, jamais de vaccin disponible, qu'il a fallu attendre, attendre et attendre.
En plus des stades, des gymnases, des salles de congrès déjà réquisitionnées, dès demain, de nouvelles structures deviennent des centres XXL. C'est le cas notamment à Lille, à Nantes ou encore à Vannes. 7 hôpitaux militaires sont également prêts à vacciner. De quoi répondre à l'accélération des livraisons de vaccins dans les prochaines semaines. Près de 12 millions de doses sont attendues ce mois-ci. Ce sera 18 millions au mois de mai.
Nicolas Feldman, injecter des vaccins, c'est bien. Injecter et en produire, c'est mieux. La France va lancer cette semaine la production de sérums anti-Covid sur son sol. L'usine de Delpharm, dans l'Eure-et-Loire, compte sortir ses premières doses de Pfizer mercredi. L'entreprise française ne produira pas la substance active du vaccin, mais elle sera chargée de son conditionnement dans des flacons stériles. D'autres sites vont suivre dans les semaines et mois à venir. Objectif du gouvernement, produire 250 millions de doses made in France d'ici la fin de l'année. Voilà qui suffira amplement à vacciner l'ensemble de la population. Il faut juste faire preuve de patience, sauf que certains n'ont pas l'intention d'attendre leur tour. Ils sont trop jeunes ou n'ont pas de comorbidité. On vous a déjà raconté sur cette antenne ces personnes qui traquent en fin de journée les doses restantes, celles vouées à être jetées faute de patients. Et bien pour éviter ce gaspillage, un site internet a été créé, Virginie Salmen, un site qui permet d'être alerté s'il reste des doses près de chez vous.
Oui, c'est un site très simple, une sorte de listing sur lequel on enregistre ses coordonnées. Ça s'appelle Covid List. Grâce à votre adresse, vous êtes alerté si un hôpital ou un centre de vaccination près de chez vous a quelques doses restantes au fond d'un flacon en fin de journée, en général aux alentours de 18h. Alors attention, il faut être en mesure de venir immédiatement. Le site a été lancé il y a tout juste 4 jours avec deux médecins de l'hôpital Foch de Suresnes, près de Paris. Il y a déjà plus de 160 000 inscrits, selon les créateurs de Covid List. Les 11 premiers volontaires ont été vaccinés ce week-end dans un centre du 20e arrondissement de Paris grâce à une soignante qui avait entendu parler du site et qui l'a utilisé pour recruter des patients à la dernière minute. Pour l'instant, c'est assez artisanal. Ils ont reçu des doses du vaccin Pfizer-BioNTech et avaient plus de 75 ans. Ils repartent avec un rendez-vous pour la seconde dose. Une vingtaine de centres de vaccination sont référencés. Des centaines, voire des millions de doses pourraient éviter la poubelle si l'initiative prend de l'ampleur. Jusqu'ici, le gouvernement tablait sur 25 à 30% de doses perdues pour des problèmes de logistique, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions.
Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Alors que la France reconfine pour un mois, certains de nos voisins, eux, font le chemin inverse. Le Portugal a rouvert aujourd'hui ses musées, ses collèges et ses terrasses de café. En Grèce, les commerces non essentiels peuvent désormais accueillir des clients sur rendez-vous, tandis qu'au Royaume-Uni, on se prépare doucement au retour des voyages à l'étranger. Boris Johnson a présenté ce soir son projet de passeport sanitaire qui permettrait d'accéder à certains événements comme les matchs de foot ou les concerts.
Écoutez le monde changer. Europe Soir.
Le 22-22-30.
Un conseil d'administration décisif s'est tenu ce soir chez Air France avec au menu des discussions l'accord de principe trouvé entre l'État français et la Commission européenne pour un nouveau soutien financier. On sait que la compagnie aérienne va mal comme l'ensemble du secteur aérien. Cette aide est donc capitale pour Air France qui, en contrepartie, pourrait toutefois y laisser quelques plumes, Clément Le Saffre.
Oui, Bruno Le Maire a été très clair hier. Cette aide n'est pas un chèque en blanc. Air France va devoir se transformer avec des contreparties classique, hein, si je puis dire, amélioration de la compétitivité et réduction des émissions de CO2. Mais il y a une nouveauté. Air France va être contrainte de céder des créneaux de décollage et d'atterrissage, moins de 24, a indiqué le ministre de l'économie. Mais le nombre exact devait être débattu pendant le conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, Vincent Salle, secrétaire général de la CGT Air France, est vent debout contre cette idée.
C'est ce qu'il y a de plus précieux pour une compagnie aérienne. S'en séparer, c'est se couper d'une partie de l'activité. Et la céder au marché de l'aérien, c'est donner cette activité-là à nos concurrents, ce qui pour nous est en contrepartie inacceptable. Alors Bruno Le Maire le présente comme une grande victoire en disant qu'il n'y en aura pas plus de 24. Mais bon, au final, ils ont cédé.
Reste à savoir exactement ce qu'Air France obtiendra en échange de ces précieux créneaux. Bruno Le Maire a évoqué un nouveau soutien financier, mais selon la CGT, il pourrait s'agir d'une opération comptable. Un prêt de l'État de 3 milliards d'euros accordé à Air France il y a un an serait transformé en recapitalisation. Une hypothèse évoquée depuis plusieurs mois, mais qui nécessitait un accord de Bruxelles, accord négocié et obtenu par Bercy et qui doit désormais être validé par le conseil d'administration.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Une nouvelle révélation dans l'affaire Estelle Mouzin, cette fillette disparue en 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, a reconnu pour la première fois avoir joué un rôle dans la séquestration de la fillette, Guillaume Bier.
Oui, des confessions faites par Monique Olivier jeudi soir lors d'un dernier interrogatoire après une nouvelle série de fouilles infructueuses. Face à la juge d'instruction Sabine Kéris, l'ancienne femme de Michel Fourniret a détaillé le rôle qu'elle aurait joué. D'après ses déclarations, elle aurait rejoint son mari le lendemain de l'enlèvement. Elle l'aurait retrouvé dans l'ancienne maison de sa sœur à Ville-sur-Lume, là où le tueur en série retenait Estelle depuis la veille au soir. Pour la toute première fois, Monique Olivier affirme qu'elle a vu la fillette vivante ce 10 janvier 2003, qu'elle lui aurait même parlé et qu'elle l'a gardée pendant plusieurs heures, qu'elle a donc bel et bien participé à sa séquestration. Selon nos informations, Monique Olivier affirme qu'elle n'a pas assisté au meurtre d'Estelle la nuit suivante, mais qu'elle aurait accompagné Michel Fourniret jusqu'à la forêt où il aurait enterré le corps, dans un secteur qui va donc faire l'objet de nouvelles recherches dans les tout prochains jours.
Guillaume Bier, du chef du service police-justice d'Europe 1. La garde à vue de l'une des cinq femmes interpellées hier à Béziers a été levée ce soir. Il s'agit d'une adolescente qui ne fait pas l'objet de poursuites à ce stade. En revanche, sa mère et ses trois sœurs sont toujours interrogées. Leurs gardes à vue ont été prolongées. Parmi elles figure une jeune femme de 18 ans soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat dans la région de Montpellier, possiblement dans des églises. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert notamment des préparatifs d'engins explosifs artisanaux ainsi que plusieurs bouteilles scotchées entre elles remplies de billes d'acier. Notez que Gérald Darmanin sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1. Le ministre de l'Intérieur répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Venons-en maintenant à ces nouvelles accusations qui font beaucoup réagir ce soir sur les réseaux sociaux. Accusations contre le journaliste Pierre Ménès dans la tourmente depuis la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Invité ce matin sur Europe 1 pour parler de la saison 2 d'Hippocrate au micro de Philippe Vandel, la comédienne Alice Belaïdi a à son tour livré un témoignage accablant.
Ce qui sort sur Pierre Ménès, sur moi aussi, j'ai été victime de sale bougnoule, salope, de la part de ce mec-là. Donc je me dis heureusement que voilà, la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent, quoi, parce que ça suffit, quoi.
Pierre Ménès, quand il vous a dit ça, que vous lui avez-vous répondu ?
Mais je lui ai répondu, j'ai une vanne de tac au tac, c'est-à-dire que voilà, il me traite de bougnoule, il me dit que je traîne qu'avec des bougnoules, donc je me suis mise à son niveau en lui demandant mais tu traînes qu'avec des gens gros, toi, par exemple, parce que moi, je suis arabe, mais je traîne pas qu'avec des arabes. Donc voilà, j'ai joué la grossophobie basique, comme je l'ai attaqué à son niveau, quoi. Et il l'a très mal pris, en fait, que j'ai de la répartie et que je lui réponde. Il m'a aussi traité de salope. Mais c'est grave, hein, c'est grave, et c'est important d'en parler. Et je trouve ça très courageux que toutes ces filles du métier prennent enfin le micro et la parole pour parler de tout ça, parce que c'était indispensable.
La comédienne Alice Belaïdi, qui était l'invitée de Philippe Vandel ce matin sur Europe 1. À l'étranger, une évasion de masse au Nigeria. 1800 détenus se sont échappés de leur prison après une attaque perpétrée par des hommes armés dans le sud-est du pays. Et puis en Russie, Vladimir Poutine a signé aujourd'hui la loi l'autorisant à faire 2 mandats supplémentaires. Le président russe au pouvoir depuis 21 ans pourrait donc rester au Kremlin jusqu'en 2036. Revenons en France avec cette liste révélée aujourd'hui. La Fondation du patrimoine a dévoilé les 18 sites qui bénéficieront de la 4e édition de son grand loto tiré en septembre. Depuis 2018, 127 millions d'euros ont d'ores et déjà été récoltés pour financer la restauration de notre patrimoine. Une aide ô combien bienvenue, Alexandra Sirgan.
Oui, c'est notamment une très belle nouvelle pour le château du Haut-Buisson. C'est un domaine qui se trouve à Chéreau, dans la Sarthe. Il date du 19e siècle. Il est resté très longtemps à l'abandon. Il a même été victime de vandalisme. Alors la mairie l'a racheté très récemment. Et pour le maire, Yannick Noël, ce loto, c'est une véritable aubaine qui va lui permettre de financer une partie des 3 millions d'euros de travaux nécessaires.
Ça va nous accompagner surtout financièrement.
Dans un premier temps, il s'agit de sécuriser, de refaire la couverture du château, mais aussi remettre en place des menuiseries.
On peut très bien imaginer de restaurer le rez-de-chaussée qui pourrait à terme accueillir un éventuel musée. Ça nous permet de rêver avec cette manne qui nous arrive du loto du patrimoine.
Mais au-delà de l'aide financière, la nomination permet de mettre en avant des monuments méconnus, comme en témoigne Véronique de Spar. Le colombier de son château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne a été restauré lors de la première édition en 2018.
Ça nous a permis de restaurer tout ce qui était couverture, tout le travail de la pierre. Donc là, on a un colombier qui est quasiment neuf. Et nous, on est entouré de 2 monuments incroyables qui sont le château de Chambord et le château de Cheverny. Et on est très à l'ombre, en fait, de ces 2 grands sites. Et là, cette mise en lumière a permis au château de Ville-Savin d'exister un peu plus.
Comme le château de Ville-Savin, 260 sites ont d'ores et déjà été sauvés avec le loto du patrimoine.
Alexandra Sirgan, la météo, Anissa Dadi, la journée de demain sera bien froide.
Oui, Julie, en quelques jours, nous sommes quand même passés d'une ambiance estivale, souvenez-vous, la semaine dernière, à une journée donc hivernale prévue demain avec la généralisation des gelées matinales. Attention, sur la moitié nord du pays, à un risque verglas important demain matin. Sur la moitié sud, il fera un petit peu plus doux, mais ça y est, la baisse des températures concerne aussi le sud de la France. Alors en Normandie, en Île-de-France et dans le Grand Est, demain le ciel est couvert, un ciel menaçant. Dans l'après-midi, les averses et les giboulées arrivent. Nous aurons donc, comme prévu, des flocons de neige sur les régions situées au nord de la Seine demain après-midi. En Auvergne et en région Rhône-Alpes, là, le temps reste sec, mais le ciel est très couvert. Sur les Pyrénées et les Alpes, il neige des 1200 mètres d'altitude. Ailleurs, le soleil reste tout de même présent. Dans l'après-midi, donc, des giboulées sur la moitié nord et puis surtout, dans le sud, le vent qui devient tempétueux, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 120 km/h sur les Caps Corses, toujours ce vent d'ouest très présent. Les températures, je vous le disais, elles sont froides demain matin avec moins 5 degrés à Nevers, on va gratter les pare-brises, moins 3 à Blois, moins 2 pour Besançon, 0 degrés à Paris, 3 à Brest et Cherbourg, 7 à Marseille et 11 pour Ajaccio. L'amplitude est donc immense entre moins 5 à Nevers et 11 pour Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, seulement 6 à 19 degrés, 6 pour Saint-Étienne, 8 à Nancy, 9 à Caen et Paris, 12 degrés pour Bordeaux, 18 à Montpellier et 19 la maximale pour Bastia.
Merci Anissa Dadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview écho d'Aurélien Fleureau. A tout de suite sur Europe 1.
Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Pas de bourse à Paris aujourd'hui, les marchés européens sont tous restés fermés pour ce lundi de Pâques. Wall Street, en revanche, était bien ouvert et les marchés américains ont clôturé ce soir en nette hausse.
Oui, ça monte avec un nouveau record pour le Dow Jones, plus 1,13%, 33 526 points. Le Nasdaq gagne 1,67%, 13 705 points. Les marchés saluent des statistiques publiées vendredi aux États-Unis, mais vendredi Wall Street était fermé. Et il s'agit des chiffres de l'emploi américain, de très bons chiffres, avec la création de près d'1 million de postes en mars. La reprise économique se poursuit donc grâce à la campagne massive de vaccination, grâce aussi aux aides financières du plan Biden de 1900 milliards de dollars adoptés début mars. Pour financer ce plan, le président américain veut augmenter l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Il a à nouveau défendu cette idée ce soir.
Les valeurs technologiques se démarquent ce soir et notamment l'action Tesla.
Tesla qui a livré un nombre record de véhicules au cours du premier trimestre, près de 185 000 voitures électriques pour le constructeur californien. Tesla grimpe de plus de 4%, du vert aussi pour Apple. Le groupe coréen LG Electronics va fermer sa division de téléphonie mobile. Une décision qui va laisser ses rivaux Apple et Samsung se battre pour récupérer ses 10% de parts de marché en Amérique du Nord. Apple gagne 2,4% et toutes les grandes valeurs de la tech sont en hausse ce soir. Amazon et Microsoft bondissent de plus de 2%, plus 3,4% Julien pour Facebook.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à demain Claire. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Aurélien Fleureau, c'est à vous.
Bonsoir Guillaume Rostand.
Bonsoir Aurélien.
Et vous êtes le directeur marketing de Liligo, moteur de recherche de voyages en ligne, comparateur de vol. Alors si j'ai eu envie de vous entendre ce soir, c'est pour se projeter un peu dans les semaines, les mois qui viennent. Le week-end de Pâques se termine, on n'a pas beaucoup bougé. Les prochaines vacances seront clairement sédentaires. Alors est-ce que vous constatez que les Français commencent déjà à se pencher un peu sur l'après en mai, en juin, en juillet? Il y a des envies, vous commencez à le ressentir un petit peu?
Malheureusement, je dois bien dire que malheureusement, avec le yo-yo que font un peu les restrictions et l'actualité qui change en permanence, on n'a pas de tendance qui soit très fiable.
Ouais.
Parce qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un relâchement un petit peu des conditions et des restrictions, on observe un pic de recherche et de la demande. Et puis, dès qu'il y a des annonces, justement, de re-reconfinement et de restrictions, ben en fait, les recherches ont tendance à retomber. Donc, on est vraiment toujours dans cette phase d'incertitude depuis un an. De fait, on est revenu quasiment, en fait, au volume qu'on observait pendant le tout premier confinement en mars 2020. Donc, bon, c'est toujours assez précaire et assez compliqué, mais on sent néanmoins, à chaque fois que s'adoucissent un petit peu les conditions, des recherches, de la curiosité, une vraie envie de voyager, mais qui est souvent contrainte par les annonces de restrictions et de reconfinement qui ont tendance à suivre, malheureusement.
Oui, un effet yo-yo depuis un an. Il y a quelque chose qui dure, pour le coup, depuis ces derniers mois, c'est cet aspect dernière minute. Forcément, ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est que on réserve de plus en plus en dernière minute. Ça, vous l'avez constaté?
Ah oui, ça, tout à fait. Évidemment, ça a été tout à fait notable l'été dernier, où après le mois de mai et à la fin du premier confinement, les consommateurs, les touristes ont recommencé à chercher. Et on a vraiment observé un rapprochement des dates de réservation avec les dates de départ. Et donc, on s'est concentré sur des dernières minutes. Tout à fait. C'est de l'ordre de, je dirais, 60% des voyages qui étaient vraiment pris à la dernière minute, c'est-à-dire réservés le mois même du départ.
Donc, beaucoup
alors
plus
que normalement, on est plutôt autour de 30%.
Ouais, voilà. Donc, c'est effectivement assez spectaculaire. Qu'est-ce qui, selon vous, est très attendu par les voyageurs? C'est cette perspective de vaccin un peu plus généralisée, d'éventuels passes sanitaires, même si on ne sait pas encore quelle forme cela pourrait prendre. Ce serait forcément ça qui pourrait donner un petit peu de garantie?
Oui, nous à cet égard, on a réalisé un petit sondage sur notre base d'utilisateurs et c'est effectivement ce qui ressort, c'est que nos utilisateurs sont favorables. Alors, il faut mettre des guillemets, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont favorables dans la mesure où on sent bien que c'est assez inévitable qu'il y ait un passeport vaccinal, un pass sanitaire, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais un élément qui nous permettra, une fois vacciné, de voyager. C'est pas un souhait, c'est-à-dire qu'on a aussi quelques réponses négatives parce que c'est une nouvelle contrainte, mais on sent bien que plus ça va, plus les voyageurs se rendent compte qu'il faudra avoir ce type d'éléments pour pouvoir voyager. Et ça, évidemment, parce que dans l'écrasante majorité des cas, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir voyager librement. Déjà, sur notre base, c'est 83% des gens ont mis en première raison pour laquelle ils seraient prêts à accepter la mise en place de ce pass sanitaire, c'est pour pouvoir enfin revoyager.
Et justement, est-ce que comme ça avait été le cas pour l'été dernier, un petit peu la seule bulle un peu de liberté l'année dernière, ça devrait se renouveler là encore, une attente sur l'été, peut-être avec des destinations qu'on ne peut pas envisager là maintenant?
Alors là-dessus, je pense que ce qu'on observe dans les destinations qui restent recherchées, c'est que ça s'est vraiment réellement resserré autour des destinations, on va dire, les plus sûres, ou les plus quelque part rassurantes.
Oui.
Parce que malgré tout, l'infrastructure du pass sanitaire et la réouverture des frontières n'étant pas encore envisagée et même envisageable, les voyageurs ont plutôt tendance à regarder des destinations rassurantes, c'est-à-dire soit domestiques ou assez proches. Je pense à la Corse, à l'Afrique du Nord, à des destinations comme Malte ou le Portugal, et puis sinon les dom-tom. Donc il y a vraiment durablement, en tout cas pour l'instant, une disparition des destinations long courrier, à l'exception notable de Dubaï, qui reste une destination phare, parce qu'on sait que c'est un endroit où on peut voyager, mais tout ce qui est île lointaine, Amérique du Sud, Asie, a vraiment durablement disparu de nos top recherches.
Oui, c'est ça, le long courrier, faudra attendre forcément un petit peu plus de temps, mais on pourrait se dire que si jamais ça peut redémarrer dans les semaines, les mois qui viennent, les Français qui n'ont pas pu voyager et qui peuvent se le permettre, hein, évidemment, peut-être ont pu économiser et essayer de se faire plaisir sur un voyage peut-être un peu plus loin, un peu plus long. Mais voilà, ça va se mettre peut-être là aussi en place un peu plus tard.
Exactement. Ce qui est certain, c'est que vraiment l'envie, la volonté, et j'irais même le besoin maintenant, et quasiment l'urgence de voyager, elle se fait de plus en plus palpable, évidemment, parce qu'on ne s'attendait pas à rester un an dans cette situation d'attentisme et un peu d'anxiété. Donc évidemment, je pense qu'il y aura un rebond important des destinations plus exotiques une fois que, passe sanitaire ou alors réouverture des frontières, enfin une fois que la crise sera au moins atténuée. Je pense qu'on ne peut plus dire qu'il faut attendre que la crise soit terminée, mais qu'elle soit atténuée. Parce que je pense que les Français ont maintenant dépassé certains stades psychologiques et sont vraiment mettent en avant leur envie de voyager. Beaucoup plus bien avant le besoin d'être dans une certaine sécurité.
Alors chez Liligo, donc c'est beaucoup les billets d'avion, les voyages lointains, mais il y a aussi la voiture. On peut rechercher des trajets. Qu'est-ce que vous avez constaté là pour le coup? Ça reste pour se déplacer en France notamment une valeur sûre.
Tout à fait ça. Étrangement, oui, et heureusement, en fait, on voit que l'activité de la comparaison de location de voiture a assez peu baissé, ou a moins baissé évidemment que le vol, ouais. Et c'est presque maintenu, c'est presque stabilisé, avec à chaque fois des pics, typiquement avant le week-end de Pâques, et typiquement ouais. Au moment des grands départs qui soient un peu forcés à cause des annonces ou qui soient habituelles, on a toujours eu pas mal d'activités, parce qu'effectivement, à défaut, les Français s'étant vraiment concentrés autour des destinations domestiques pour leurs vacances, ça a vraiment drainé une assez grande activité pour la comparaison de location de voiture.
Eh bien, un grand merci Guillaume Rostand d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing de Liligo, et retour demain 22h20 de l'interview Echo avec Emmanuel Duteil.
Merci beaucoup Aurélien Fleurot, Emmanuel Duteil, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Carole Ferry cette semaine, émission consacrée aux pansements intelligents. Des entreprises françaises innovent comme Urgo Médical. Son président sera demain matin l'invité de La France Bouge sur Europe. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération, AstraZeneca, le mal-aimé, titre Le Quotidien. Entre la suspicion d'effets secondaires qui entretient la méfiance du public et des livraisons de vaccins aléatoires, le laboratoire concentre les polémiques mais reste quasi intouchable et rentable, écrit Libé, qui revient notamment sur ces 1200 doses qui n'ont pas trouvé preneur faute de candidats ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais. Face à cette situation, on aurait pu imaginer une réaction massive et argumenté du laboratoire. Eh bien non, pour l'heure, le PDG d'AstraZeneca, le franco-australien Pascal Soriot, est aux abonnés absents, confiné dans son logement de Sydney. Et quand il daigne se manifester, comme le 25 février, pour son audition à la Commission européenne, c'est pour répondre d'une manière technique et chirurgicale, sans la moindre once d'affect, alors que son labo a pourtant planté l'Union européenne de 90 millions de doses pour le seul premier trimestre 2021, ajoute Libération. Des vaccins, on en trouve également à la une de West France. Comment la France s'inscrit dans l'effort européen, titre Le Quotidien régional. Comme je vous le racontais dans le journal, nous allons cette semaine commencer à produire nos propres doses grâce à plusieurs usines de sous-traitants. C'est le cas de Delpharm dans l'Eure-et-Loire, qui va mettre en flacon ses premières doses de Pfizer mercredi. Premier vaccin made in France, titre Les Échos. Enfin, écrit le journal, enfin la France va contribuer à l'effort industriel dans cette guerre contre le Covid. Les Échos qui s'inquiètent en revanche des conséquences
économiques de la troisième vague. Elle alourdit l'addition budgétaire, titre Le Quotidien, qui résume la situation ainsi. Un peu moins de croissance, 5% au lieu de 6%, un peu plus de déficit et donc une dette publique qui continue de grossir. On termine avec Le Figaro qui publie demain un entretien avec Michel Houellebecq. Alors que dans quelques jours, l'Assemblée va voter un texte sur la fin de vie, une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, selon l'écrivain, à lire donc demain dans Le Figaro.